Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allée.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle chronique de l'ALEP. Nous sommes toujours avec Muriel Duguay qui aujourd'hui vient nous parler du ménage.
Oui, bonjour Corentin. Alors c'est une thématique un peu particulière, un peu originale pour une chronique nature, mais en fait le ménage ça nous concerne tous. Et finalement, qui pourrait croire qu'un acte aussi innocent que faire le ménage pourrait devenir une activité nocive ? Néfaste pour la santé, pour l'environnement, mais aussi pour son porte-monnaie. Donc en fait, les produits d'entretien contiennent beaucoup de substances chimiques, plus ou moins complexes, et ils sont en vente libre dans nos supermarchés, à proximité des petits pots pour bébés, des produits laitiers ou des cosmétiques.
Donc on va parler aujourd'hui de produits ménagers, mais pourquoi ?
Eh bien parce qu'en fait c'est une thématique qui nous concerne tous et qui est en lien avec la protection des zones humides dont on parle depuis quelques semaines maintenant. Pour protéger la qualité de l'eau, il faut parler des produits ménagers et de ce qu'ils contiennent, de leur impact, mais aussi comment faire au mieux.
Mais oui, les produits ménagers, on sait que c'est pour nettoyer, laver, mais comment ils sont fabriqués en fait ?
Ben en fait, pour la plupart, ils sont fabriqués à partir de substances issues de l'industrie pétrochimique. Pour être nettoyant, le produit ménager nécessite un agent lavant ou tensioactif. C'est ce qui permet de dissoudre la salissure, en fait, ouais, qui est diluée dans l'eau ou dans un solvant. Et donc, selon l'utilisation du produit, on ajoute d'autres ingrédients. Des acides pour détartrer, des bases pour accroître l'efficacité des savons, des détergents pour dissoudre les graisses, des adjuvants, des azurants optiques, des enzymes, des parfums, etc.
On achète souvent un produit par usage. Un pour écurer, désinfecter, un pour dégraisser, un pour faire briller, désodoriser. Bon, la liste est longue.
Oui, t'es au top au niveau ménage.
Ouais, je suis calé.
Et oui, sans oublier qu'en fait, on utilise aussi souvent un produit pour chaque pièce de la maison. Un pour la salle de bain, un pour le salon, un autre pour les toilettes, un autre pour la cuisine. Et également un spécifiquement pour chaque type de surface, le bois, l'émail, les cuivres ou l'argenterie, etc. Donc en fait, pour le linge aussi, on utilise un produit différent pour le linge noir, un autre pour la laine, un autre pour blanchir le linge, un autre pour l'adoucir. Enfin voilà, tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de produits.
Oui, et surtout sortir beaucoup de sous du porte-monnaie.
Exactement. Donc en gros, pour vous donner une idée, on vend pour 41 euros de lessive à chaque seconde en France, soit un chiffre d'affaires de 1,30 milliard d'euros par an.
Chaque année, les Français dépensent en moyenne et par foyer 220 euros en produits ménagers, ce qui représente 88 kilos de marchandises. Mais comment on faisait avant pour tous ces produits ? Comment ils ont apparu ?
Eh bien oui, parce qu'en fait, c'est assez récent. C'est en 1916 qu'apparaissent les premiers détergents synthétiques. En fait, avant et depuis plus de 3000 ans, on utilisait juste du savon pour l'hygiène corporelle et l'entretien de la maison. C'est en fait pendant la Seconde Guerre mondiale que ça s'est passé. Il y a eu une pénurie de graisses animales et végétales qui sont essentielles pour la fabrication du savon. Et du coup, l'armée a dû trouver des solutions pour nettoyer les uniformes dans l'eau froide et parfois dans l'eau calcaire. Donc en fait, ce problème a accéléré les recherches sur les détergents de synthèse. Donc à partir de 1946, les détergents industriels se développent et ces produits chimiques sont issus de l'industrie pétrolière. Ils contiennent des adjuvants, des agents de surface, et deviennent alors plus efficaces que le savon. Donc à partir des années 50, ils auront la préférence des ménagères et le savon ne servira presque plus.
Et oui, la publicité a également joué un rôle important dans ces changements d'habitude. Il faut aseptiser, désinfecter, traquer la moindre bactérie pour protéger toute la famille. Résultat, si on veut bien faire les choses, on ne peut pas échapper à l'achat de tous ces produits. Mais alors, quelles sont les conséquences sur l'environnement ?
Et ben en fait, à chaque étape de sa vie, de sa conception à son élimination, un produit ménager a des effets néfastes pour l'environnement. Il faut extraire les matières premières, les transporter, fabriquer les produits, les distribuer, les consommer et puis ensuite les éliminer. Tout ça, ça occasionne des émissions polluantes et une consommation d'énergie importante. En gros, dans l'utilisation, il y a 30 à 40% des substances composantes d'un produit ménager qui se retrouvent dans les eaux usées domestiques. Et en fait, le traitement de ces eaux en station d'épuration n'est pas suffisant pour tout nettoyer et tout éliminer. Donc, ça se retrouve dans le milieu naturel. Et en ce qui concerne les logements sans équipement, ça existe encore aujourd'hui, hein, même en France, eh ben, les eaux usées et polluées sont directement rejetées dans le milieu naturel.
Et tu as quelques exemples de substances néfastes ?
Ben, en gros, pour l'eau de Javel, si on prend l'eau de Javel par exemple, ça libère du chlore. Et lors de son utilisation, ce chlore peut se combiner à des molécules organiques en lien avec les sols, les eaux et l'air et former des organochlorés. Alors c'est un mot un peu bâtard, mais en fait c'est des composés toxiques qui persistent et qui s'accumulent dans les chaînes alimentaires. Voilà, donc là on contamine en fait toute la chaîne. D'accord. Et puis il y a la soude caustique, donc qui là est très basique. Elle augmente le pH des eaux. Et donc peut constituer une menace pour la faune et la flore. Par exemple, les poissons peuvent mourir d'asphyxie. Donc chaque année, les Français font 7 milliards de lessives. Pour vous donner une idée, ça fait 20 millions par jour. Par famille, ça fait 220 lessives, ce qui représente 26 litres de lessive liquide ou 40 kilos de lessive en poudre. En gros, pour une famille, on produit de quoi tuer l'écosystème d'un étang de 6 hectares et de 1,5 m de profondeur.
C'est impressionnant, ces chiffres. J'avais jamais vu sous cet angle.
Ouais, ça va vite.
Et pour la santé humaine, ce sont quand même des produits destinés à rendre nos maisons saines ?
Oui, effectivement. Mais en fait, selon l'Observatoire de la qualité de l'air, on se rend compte aujourd'hui que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Près de 900 substances chimiques sont émises dans nos maisons. Alors ça passe par l'habitat, par les produits d'isolation, par les meubles, mais aussi par les produits d'entretien qui sont très concentrés et donc agressifs. Y a des agents chimiques toxiques qui sont en fait très volatiles, le benzène, les formaldéhydes, les éthers. Et donc en les respirant ou au contact de la peau, pour les lessives en fait, l'utilisateur s'expose à différentes pathologies, des irritations des bronches, de la peau, des yeux, du système digestif. Ou plus grave, ça peut entraîner des cancers en atteignant le système nerveux. Donc en fait, il y a des études qui ont mis en évidence le lien entre l'exposition à des molécules qui sont présentes dans certains produits et des cas de cancer chez des femmes de ménage ou de malformations des bébés chez les femmes enceintes exposées à ces solvants. D'autres études démontrent que des enfants vivant dans un environnement trop aseptisé sont plus vulnérables face aux allergènes.
Tu aurais des exemples concrets ?
Et oui, bah les solvants par exemple contenus dans les détachants se dégradent très lentement et provoquent de graves pollutions des eaux. Mais chez l'homme, ils agissent sur les voies respiratoires, les reins, les yeux. Et ce sont de puissants neurotoxiques. Donc en fait, ils détruisent les cellules nerveuses.
D'accord, mais que dit la loi là-dessus ?
Et ben en fait, ces ingrédients, ils sont régis par le règlement européen sur les produits ménagers. Il y a aussi des directives, d'autres directives européennes. Et donc en fait, à partir d'un certain pourcentage, ils doivent être mentionnés sur l'emballage. Certaines substances sont aussi interdites, mais d'autres, quoique préoccupantes, restent utilisées alors qu'elles pourraient être substituées.
Et la mention sur l'emballage, c'est quand même respecté ?
Alors c'est respecté, après il y a des publicités qui sont un peu manipulatrices, par exemple certaines marques de lessive affichent des produits sans phosphate comme un argument de vente, alors qu'il faut savoir que depuis le 1er juillet 2007, les phosphates sont interdits dans les lessives domestiques, donc même si c'est affiché, enfin si c'est vendu comme ça, c'est vraiment de la manipulation. Ouais. Après ils sont quand même autorisés dans les lessives industrielles et les produits de nettoyage pour les lave-vaisselle.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut limiter l'impact des produits ménagers sur notre porte-monnaie, notre santé et l'environnement ?
Eh bien d'abord, on peut se dire que dans un logement, on n'est pas obligé de faire la chasse systématique aux bactéries. Un entretien régulier est largement suffisant, donc voilà, pas trop de ménage, reposez-vous, prenez du bon temps.
Ah, c'est pas mal ça.
Ouais, mais en fait, la prolifération de bactéries, elle est dangereuse pour la santé que s'il y a vraiment accumulation de résidus alimentaires, graisseux et ou calcaires.
D'accord, donc là c'est un peu plus pour les actes et en termes de produits.
Eh ben en fait on peut faire attention à ce qu'on achète d'abord, ne se fier qu'au label européen parce que sinon il y a une multitude de labels qui sont pas forcément faciles à décortiquer. Mais le mieux reste de se doter de produits de base en fait qui sont utilisés depuis très très longtemps par nos grands-mères. C'est quelques produits naturels qui sont polyvalents et efficaces et qui permettent de nettoyer sans agressivité, ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement. Et pour une somme dérisoire. Donc en fait, ces produits, c'est le vinaigre d'alcool, le bicarbonate, le savon noir, les cristaux de soude et le savon de Marseille.
Donc on retourne en direction des grands-mères, mais c'est pas une régression par rapport à...
Alors on pourrait le prendre comme ça, c'est vrai que quand on parle de développement durable, on a l'impression des fois de prôner le retour à la bougie. Mais en fait là, la régression, ce serait plutôt d'ignorer ce qu'on sait sur la nocivité des produits industriels, sur la santé et l'environnement. Donc évidemment, il n'est pas question de revenir en arrière. Heureusement, aujourd'hui, on a des lave-linges qui sont beaucoup plus performants qu'avant. Il n'est pas question de retourner au lavoir pour battre le linge, mais aujourd'hui, on peut allier les produits naturels combinés aux technologies de pointe qui permettent un résultat très, très propre, l'effort en moins et la nocivité en moins aussi.
Ok, bah la prochaine fois, au supermarché, j'achèterai du vinaigre d'alcool. C'est très bon marché, moins d'un euro le litre, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça.
Et comment l'utiliser?
Eh ben, en fait, il est biodégradable, ça veut dire qu'il est pas polluant pour l'environnement, ni toxique pour la santé. Il est même comestible, donc tu peux en profiter pour faire tes bocaux de cornichons et de capres, si tu veux, s'il t'en reste un peu. Et son odeur forte n'entraîne aucun risque pour la santé. Donc il peut remplacer pas moins d'une dizaine de produits ménagers industriels, le nettoyant pour les vitres, le désodorisant, le désinfectant, l'anti-moisissure, le détartrant, l'adoucissant, le nettoyant multi-usage. Voilà, donc tout ça en fait, on peut l'utiliser pour tous ces usages. Il est reconnu aussi pour ses propriétés antimicrobiennes. Donc en fait, il permet de réduire et de retarder la multiplication des bactéries. Donc il est désinfectant pour les toilettes, désodorisant, détartrant pour les vitrages de douche, les robinetteries, les bouilloires et les cafetières électriques. Il est adoucissant et assouplissant pour le linge, il est détachant pour les vêtements, les tapis, les moquettes, et nettoyant pour les miroirs, le cuivre, les carrelages, les brûleurs de cuisine, et j'en passe. Par contre, il faut juste faire attention à ne pas le mélanger avec de l'eau de Javel qui dégage des vapeurs toxiques si on les mélange. Mais voilà, si vous passez au vinaigre d'alcool, tu laisses tomber l'eau de Javel par la même occasion.
Oui, ok. Et donc pour avoir une bonne trousse de ménage, il me faut aussi du bicarbonate, du savon noir, des cristaux de soude, du savon de Marseille.
Voilà, tu peux aussi rajouter de la terre de saumière et quelques huiles essentielles pour l'odeur relaxante de la lavande, par exemple, ou pour les propriétés antibactériennes du tea tree. Mais en fait, chaque ingrédient peut être utilisé seul, mais tu peux aussi combiner les propriétés en faisant des mélanges simples pour te créer toi-même tes produits. Voilà.
Et comment on trouve ces recettes?
Eh ben en fait, c'est devenu super tendance de fabriquer ces produits ménagers soi-même. Donc sur internet, il y a une foule de forums de recettes qui sont testées, il y a des échanges de pratiques là-dessus. Il y a beaucoup de revues, de livres qui traitent du sujet aujourd'hui, et puis l'ALEP propose des ateliers de fabrication de produits ménagers pour commencer à plusieurs, parce que des fois c'est pas évident de se lancer tout seul.
Ouais.
Mais en gros, c'est devenu très à la mode, très actuel. C'est vraiment un phénomène de société, parce que ça allie protection de l'environnement et de la santé. C'est une manière de pallier à la crise, parce que ça permet de faire vraiment des économies, et c'est un partage de savoir-faire, donc c'est un véritable outil de développement durable.
Mais merci beaucoup Muriel pour cette nouvelle chronique. On se retrouve la semaine prochaine. Quel sera le sujet?
La semaine prochaine, ce sera une autre manière de protéger la qualité de l'eau avec le jardinage. Donc en attendant, bon nettoyage de printemps et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.